1 Rois chapitre 3, verset 1 à 14, puis on ira un petit peu plus loin après. 1 Rois chapitre 3, 1 à 14, et on va parler aujourd'hui du roi Salomon, très connu. Chapitre 3, verset 1, il dit « Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon. » Et l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il ait achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, on n'avait point bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu as conservé cette grande bienveillance, et tu as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit, puisque c'est ce que tu demandes, puisque tu demandes pour toi ni une longue vie, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y en aura personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te le donnerai en outre, et que tu n'aies pas demandé des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y en aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. On va aller un petit peu plus loin dans 1 Roi, toujours, mais au chapitre 11 et les versets 1 à 8. 1 Roi, chapitre 11, versets 1 à 8. Ça, c'est le commencement de règne de Salomon. Et là, on est vers la fin de son règne. On voit que les choses ont vachement changé. 1 Roi, chapitre 11, versets 1 à 8. Le roi Salomon aimait beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Éthiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon allait après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites, et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Salomon est un roi bien connu, hein, mondialement connu, même encore aujourd'hui, surtout connu pour sa grande sagesse et le faste de son royaume. Et ça, on le connaît très bien. Par contre, on oublie bien souvent que ça a été aussi un roi qui a très vite désobéi, et pas qu'un peu. Hein. Surtout à la fin de sa vie, il a été carrément très désobéissant. Quelque part, moi, Salomon me rappelle, parce qu'on n'est pas là pour le juger, évidemment, mais que nous aussi, on a une vie chrétienne qui part très vite. Hein. Quand on est jeune chrétien, on est tout feu, tout flamme. On a envie d'annoncer Christ à tout le monde. Et puis, la vie arrive, et puis le temps passe. Et peut-être que même certains, ben, tout doucement, vont déraper, vont glisser, vont abandonner même peut-être. Un peu comme Salomon, quelque part. Hein. J'aimerais vraiment que ce matin, il nous fasse réfléchir un petit peu à notre parcours de vie chrétienne, peut-être, et à son endurance, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Parce qu'on était tout feu, tout flamme, je pense, au début, mais au bout de 20 ans, 40 ans de vie chrétienne, je ne sais pas si quelqu'un en a 60, là, je ne pense pas, j'exagère un peu, mais où on en est aujourd'hui. Et je pense que la Bible est là pour nous servir d'exemple, et Salomon est un exemple pour nous. On va voir trois choses, hein. D'abord, la vie du chrétien qui fait de Dieu sa priorité, et ça change complètement la vie. Deuxième chose, on verra avec Salomon, quand Dieu n'est plus la priorité. Et puis une troisième chose, c'est comment on pourrait faire que Dieu soit vraiment ma priorité quotidiennement. Or, Salomon, je vais quand même le présenter, même si vous savez, je pense que tout le monde le connaît, hein. Il était fils de David, le fils de David de Bathsheba. Bathsheba, c'était cette femme avec laquelle David a été adultère, mais vous voyez, Dieu a quand même fait de belles choses, finalement. Salomon est né à Jérusalem. Son nom signifie paix ou pacifique, hein. On pourrait parler de celui qui est pacifique. David, hein, le père, avertira justement que ça sera un successeur, mais qui va régner avec la paix. Et c'est vrai que durant tout son règne, il y aura la paix. Salomon est le pacifique, on pourrait dire. Hein. Dans 1 Chronique 22:9, il est dit « Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos, après la vie de David tumultueuse, hein, et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour, car Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. » Ça fait du bien, la paix, hein. Quand un pays est en paix, c'est agréable. Nathan, le prophète Nathan, va aussi l'honorer d'un autre nom, Jedidja, ça veut dire « bien-aimé de l'Éternel ». Donc il a tout pour bien commencer, cet homme-là. Il va accéder au trône. Alors juste un peu avant, le fils de David, Adonija, va essayer d'usurper le trône. Mais bon, Dieu avait décidé que ce sera Salomon qui va régner. Nathan va déjouer cette rébellion. Mais vous voyez, hein, vouloir le trône, ça existait déjà à cette époque-là. C'est pas qu'en France. Salomon sera proclamé roi, et David va mourir peu après. Il va commencer son règne, on est à peu près en 970 avant Jésus-Christ. Il avait 20 ans. Alors on dit que M. Macron est jeune à 40 ans, je crois qu'il avait. Vous imaginez être roi à 20 ans? Qu'est-ce que vous faisiez à 20 ans, vous? Des bêtises, j'imagine. Hein? Eh oui, c'est pas ça, parce que souvent on veut bien jeter la pierre sur les rois, mais il était tout jeune quand il a commencé. Bon, le Seigneur lui a confié cette mission, mais quand même. Et Salomon va se conformer aux recommandations de son père, qui lui avait dit avant de mourir, et il fallait exécuter tous les ennemis. Imaginez, vous avez 20 ans, et vous devez donner l'ordre que tous vos ennemis soient mis à mort, famille et tout ça. C'est dur quand on y réfléchit, quand même. On lit très vite, des fois, les rois, mais c'est quand même terrible. Et heureusement qu'il l'a fait, parce que c'est ça qui va lui permettre aussi de vivre en paix durant tout son règne. Donc de sacrées responsabilités, de sacrés choix à faire à l'âge de 20 ans. On se plaint à 40 ans, hein, qu'on a des choix à faire. Salomon donc va obéir à son père et il fera aussi plusieurs pactes politiques, hein, autour. On ne va pas tous les énumérer. On a vu qu'il va épouser la fille du roi d'Égypte et ça va apporter une certaine stabilité géopolitique grâce à tous ces actes politiques et pactes politiques. Puis on l'a lu, à un moment, l'Éternel va rencontrer Salomon, hein, dans un rêve et il va lui demander ben, « qu'est-ce que tu désires ?» Et normalement, les rois, généralement, qu'est-ce qu'ils désiraient? La gloire, la richesse, la longévité, enfin, ce que nous, on aurait demandé, certainement. Je ne sais pas si on aurait forcément demandé ce que Salomon va demander. Mais Salomon est sage à ce moment-là. En tout cas, jeune de 20 ans, qui demande pas la richesse, pas la gloire, mais demande d'être sage. Vous avez beaucoup de jeunes comme ça qui s'arrêtent à 20 ans, qui disent « Seigneur, donne-moi de la sagesse ». Pas qu'à 20 ans, hein, parce qu'on en a besoin à 30 et à 40 ans encore. Hein. Et oui, il s'arrête et il demande de la sagesse et de l'intelligence parce qu'il a compris qu'il va devoir juger ce peuple. Il va devoir mener ce peuple pendant toute sa vie. Et c'était normal, quelque part, que ce jeune roi demande ce genre de choses parce qu'au moins il était honnête devant Dieu, il n'était pas capable de le faire. Ça, c'est bien. Des fois, nous, on se croit capable de tout, juger, d'être capable de toute chose, mais lui, il nous montre quelque chose là, c'est que des fois, il faut être honnête avec nous-mêmes. On ne va pas y arriver. Mais lui a demandé de l'aide à ce moment-là à Dieu. Et Dieu va l'exaucer et va le donner même plus, non seulement la sagesse, mais tout le faste qu'on lui connaît. Tout cela va aussi lui être donné. Et on connaît Salomon pour ses grands jugements célèbres. Hein. Ce n'est pas moi qui ai coupé un enfant en deux pour juger quelqu'un, mais enfin bon, il a osé. C'est certainement Dieu qui l'a aidé à ce moment-là. Et puis 20 ans plus tard, Dieu va lui abattre une deuxième fois et va lui faire la promesse, mais une promesse conditionnelle, hein, d'affermir son trône pour que sa dynastie dure. Évidemment, si vous connaissez l'histoire, j'ai parlé de conditionnel. Tout dépendait si Salomon obéissait à Dieu comme David l'avait fait. Et on sait très bien qu'il ne va pas le faire. Quand on s'intéresse aux œuvres de Salomon, alors il a bâti le temple en 7 ans. David n'a pas pu le faire parce qu'il était un guerrier. Et Dieu a décidé que ce soit Salomon, son fils, qui va le faire. Et on connaît tous ce temple. Hein, il va procéder à la dédicace. 7 ans de travail. Puis il va commencer à bâtir son palais. Là, ça va durer 13 ans. Hein? Beau palais, 13 ans. En contraste avec les 7 ans de travaux pour le temple, lui, il s'est fait le plus beau des palais. C'est curieux quand même. Il y a un contraste, j'ai l'impression, entre les deux. Il va fortifier de nombreuses villes. Il va bâtir d'autres villes dans divers points du pays. Il va avoir une administration glorieuse. Hein. Il va administrer tous les États avec beaucoup de sagesse. Il va certainement être assisté par beaucoup de gens, mais les choses fonctionnaient très bien à ce moment-là. Il va conserver l'effectif de l'armée, hein, il aurait pu réfléchir à cela. Alors il va diviser le royaume, son grand royaume, en 12 districts indépendants des anciennes limites des tribus, ce qui va permettre ensuite l'administratif. Hein. Vous voyez, c'était un roi assez intelligent. Hein, il a géré vraiment son travail à ce moment-là. Et le fait de créer ces districts permettait de mieux gérer tout simplement le pays. L'expansion commerciale va être faite grâce à l'argent qu'il va accumuler au fur et à mesure. Hein. C'est un grand commercial et il va devenir de plus en plus riche. Puis sa cour va devenir de plus en plus magnifique parce que forcément de plus en plus de revenus vont venir et il va devenir quelqu'un de puissant de façon politique, mais quelqu'un d'extrêmement riche. Ça vous dit ? Oh, on aimerait vivre comme ça, au moins une journée, hein, juste pour voir ce que ça donne, non ? Bon, il faut le gérer quand même, je pense, aussi derrière. Et puis, il y a beaucoup de pièges. Hein. Et beaucoup de gens vont venir de loin pour écouter la sagesse de ce jeune Salomon. Tout commence si bien. Vous connaissez la reine de Saba, hein, qui est de Saba, qui est venue. On sait aussi que Salomon était un écrivain, c'est quelqu'un qui était très cultivé, qui va s'intéresser aux lettres, aux sciences de l'époque. Hein, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui étudiait beaucoup. Et on va recueillir des proverbes, on sait qu'il a écrit dans l'Ecclésiaste, on sait qu'il a écrit dans les Cantiques des Cantiques, il a écrit 2 psaumes au moins, on en est sûr. En tout cas, c'était quelqu'un qui aimait Dieu et qui partageait tout simplement sa grande sagesse. Puis on arrive à la fin de sa vie, on ne va pas rentrer dans le détail, mais à la fin de sa vie, tout doucement, Dieu va lui susciter des ennemis. Pourtant, il devait passer sa vie normalement en paix, mais on sait très bien que c'est à cause de son péché que Dieu va commencer à susciter des ennemis. Mon Jéroboam, par exemple, qui va devenir le futur roi après lui. Et le prophète Akiza va aussi prophétiser le schisme. Le schisme, c'est la séparation hein, des 12 tribus, et ils vont se scinder en deux, hein, Israël et Juda, à cause, tout simplement, du péché de Salomon. Et ce prophète va lui dire, avant qu'il meure, c'est-à-dire à cause de ton péché, tout ça, ça va partir en vrille, quelque part. Ça aurait pu continuer, mais à cause de ton péché, le Seigneur va permettre que ce schisme va avoir lieu. Tout ça à cause de l'idolâtrie. Et Salomon va régner environ 40 ans et va mourir à l'âge de 60 ans environ. Une belle vie quand même, hein. 40 ans, quand même une belle vie, mais qui finit, hélas, très, très mal. Ce roi est une leçon pour nous, je pense, hein, parce qu'au départ, il avait absolument tout pour réussir. Honnêtement, la sagesse, l'argent, le commerce, pas d'ennemis. Qu'est-ce que vous voulez demander de plus, honnêtement ? Alors, ça a bien commencé, évidemment, mais voilà. Malgré sa grande sagesse, c'est un être humain. Il a un cœur comme vous et moi, hein, qui est fait avec cette chair qui est là et qui, de temps en temps, ben, nous amène à chuter, ou à bien chuter même, parce que lui, il va aller très loin, quand même, dans cette chute-là. On a beau avoir beaucoup de sagesse, on a beau avoir que tout aille bien dans notre vie, le cœur, il est là, et lui, il nous pousse toujours vers la chute, tout simplement. Et puis une deuxième chose qu'il nous apprend, c'est que quand tout va bien, ça c'est ce qu'on voudrait tous dans notre vie, que tout aille bien tout le temps, jamais malade, jamais de problème d'argent, jamais de problème de travail. Mais quand tout va bien, ben le danger c'est d'oublier tout simplement Dieu. C'est ça le problème. Alors je ne dis pas que Dieu nous envoie spécialement les épreuves pour qu'on ne l'oublie pas, mais je crois que quelque part c'est fait aussi un peu pour cela. Mais si toute notre vie était un long fleuve tranquille, à un moment vous oublierez Dieu tranquillement. Et c'est ce que nous apprend. Et nous, on n'est pas sages comme Salomon. Moi, je n'avais pas la relation qu'il a avec Dieu. Hein, parce qu'il l'a vu. Enfin, il l'a en tout cas entendu. Hein. Mais si tout va bien, ce n'est pas bon. Je suis désolé de vous dire. J'aimerais bien que tout aille bien dans votre vie, mais je vais prier pour que ça aille pas toujours bien. Comme ça, vous n'oubliez pas Dieu. Hein, c'est ça. Je vais me faire lyncher à la fin du culte, je crois. Mais c'est vrai, c'est la réalité. Je suis désolé. Heureusement que des fois, il y a des petites épreuves dans notre vie qui nous mettent à réfléchir après Dieu pour qu'on ne l'oublie pas. Mais Dieu nous offre une vie. Vous avez une vie. On n'est pas des rois, c'est vrai. Mais quand même, on a une vie et on a sa présence à nos côtés. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? On sait ce que Salomon en a fait, mais nous, qu'est-ce que nous en faisons ? Ça, c'était, on va dire, la période où Salomon faisait de Dieu la priorité. Mais on a vu qu'à un moment, il a lâché complètement Dieu. J'aimerais qu'on lise dans Deutéronome, chapitre 17, pour comprendre un peu les péchés de notre cher Salomon. Deutéronome, chapitre 17, versets 14 à 17. Deutéronome chapitre 17, on va lire les versets 14 à 17. C'est bien avant avec Moïse hein, qui a reçu la loi et c'était pour les rois, enfin des recommandations en tout cas pour ceux qui régnaient. Deutéronome 17, versets 14 à 17. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu auras établi ta demeure et que tu diras « Je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent », tu mettras sur toi le roi que choisira l'Éternel ton Dieu, tu prendras un roi du milieu de tes frères et tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, et qui n'ait pas un grand nombre de chevaux, qui ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit « vous ne retournerez plus par ce chemin-là ». Il n'y ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or, etc., etc. Donc bien avant que les rois règnent, Dieu avait déjà donné des recommandations à ces gens qui devaient régner plus tard, et ben, tout ce que Dieu demandait de faire, ben, tout cela, Salomon ne l'a pas fait. Par rapport à son harem, hein, on l'a vu tout à l'heure qu'il avait 1000 femmes. On est une. Pas mal, hein. Mais 1000 à gérer, mais vous imaginez le truc. Bon, je pense pas qu'il était là tout le temps, hein. Mais en même temps, c'était pas très honorant pour ces femmes, mais bon, on est à une époque aussi particulière. Mais on l'a vu tout à l'heure dans Deutéronome qu'il n'est pas de nombreuses femmes. Donc il désobéit à Dieu là. C'était des princesses hein, qui étaient liées à tous les gages politiques et tous les pactes qu'il faisait à ce moment-là. On sait très bien que les commandements nous disent aussi qu'il ne faut pas être idolâtre, et lui, parce qu'il était amoureux de ces femmes, ben, va tout doucement monter des sanctuaires pour leur dieu. Et Moloch et d'autres dieux, c'est des choses absolument terribles. Hein. On sacrifie des enfants pour ces dieux-là. Et lui, il va permettre ce genre de choses par amour pour toutes ces dames. Ah, l'amour, quand on en prend. Le luxe, on l'a lu tout à l'heure dans Deutéronome, tu peux être riche, mais peut-être pas trop non plus, en tant que roi. Et lui, il va entasser les trésors et il va même lever des impôts à un moment et le peuple va pas être très content. Alors, vous savez ce que c'est que les impôts? Mais bon, à l'époque, c'était autre chose. Hein. C'était plus terrible que ce que nous vivons, je pense. Mais en tout cas, voilà, comme s'il n'avait pas assez d'argent déjà. Encore de l'argent. Hein. Et puis les chevaux, on sait qu'il en avait énormément. Et pourtant, Deutéronome, il y a d'autres passages qui le disent, il ne fallait pas qu'il en ait trop pour sa gloriole, tout simplement. Mais lui, il va les faire importer d'Égypte. Et en fait, il désobéit tout simplement encore à Dieu. Il connaissait la parole. Il savait tout cela. Mais il ne l'a pas obéi, tout simplement. À cause de ses sentiments, à cause de son amour, à cause de la chair qui a besoin de toujours plus. Or, ce n'est pas pour nous, ça. N'est-ce pas ? Nous, on ne veut pas toujours plus. On n'est pas tenté, des fois, par l'amour. Si, on est tous dans ces cas-là, parfois. Alors, pas tout le temps, systématiquement. On n'est peut-être pas idolâtre, mais nous, notre idole aujourd'hui, c'est tout ce qui remplace Dieu. Et là, il y en a beaucoup, beaucoup de choses qui remplacent Dieu. C'est un homme qui était plein de sagesse. Et qui chute lamentablement à la fin de sa vie. Les raisons de cette chute, ben, c'est les femmes, tout simplement. Hein, l'amour, être attiré, certainement la gloriole d'en avoir plus que les autres, je ne sais pas. Le sexe, hein, parce que ça, je pense que c'était complètement lié. Le luxe, l'idolâtrie, la gloire. Bref, tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Ce n'est pas des vieux problèmes propres à une époque, hein, puisqu'aujourd'hui, on court après ces mêmes choses. Hein, le sexe, la gloire et l'argent. Toujours la même chose. La chair, elle n'a pas beaucoup changé hein, dans sa convoitise. Ça, c'est curieux. Et on cherche toujours les mêmes choses aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est un peu, pour moi, pas un exemple dans le sens où je suis ce qu'il fait, mais au moins, il nous avertit des dangers hein, qui peuvent nous arriver. Et puis aujourd'hui, on n'est jamais assez riche. Hein, on en veut toujours plus. Et quand on est vraiment riche, je ne sais pas ce que c'est, mais à ce qui paraît, on est complètement insatisfait et qu'on en veut toujours, toujours plus. J'aimerais bien essayer une fois pour voir ce que c'est. Mais bon, je préfère des fois rester pauvre. Hein. Et puis, quelque part, la Bible ne dit pas, mais... Dans cette convoitise, il est piégé par le diable aussi. Parce que vous savez, quand vous vous laissez aller, ben, le diable va vous entraîner encore plus loin, un peu plus loin. Et lui, il s'est laissé vraiment entraîner jusqu'à l'idolâtrie, à presque oublier complètement Dieu et de l'adorer, de le suivre et de marcher après lui. Et le diable connaissait les faiblesses de Salomon. Il savait sa convoitise et va tout faire pour l'exploiter. Et ça, c'était Salomon, mais il connaît aussi mes faiblesses, il connaît aussi ma convoitise, et si je me laisse aller, eh ben, il va l'exploiter tout simplement. Ça dépend de moi. Et puis Salomon va abandonner Dieu, il va remplacer Dieu, ce grand Dieu dont il connaît le passé, hein, il a quand même sorti le peuple d'Égypte, il y avait David son roi qui était connu, il a préféré aller vers des idoles, tout simplement. C'est quand même terrible le passage, hein, la sagesse, comme j'ai dit, à la bassesse. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Ça rentre tout doucement dans le cœur, et puis les choses vont, etc., etc. Mais Dieu regarde. Et Dieu va le punir. Pas directement, mais quand même. Salomon, il est dit dans 1 Roi 11:11, n'avait pas gardé l'alliance. Hein, il dit, et l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu agis de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus de toi et je le donnerai à ton serviteur. » Vous avez bâti pendant toute une vie un royaume comme cela, son face, etc. Et Dieu dit maintenant, à cause de ton péché, tout ça, c'est fini. C'est fini. Terrible, quand même, comme punition. C'est pas lui qui va la subir vraiment, mais c'est le peuple après. Et Dieu va vraiment déchirer ce royaume, pas dans sa, durant sa vie, mais une fois qu'il sera mort, et on connaît tous l'histoire d'Israël et Juda, ensuite. Hein. Tous nos actes, qui nous semblent parfois bénins, ont des conséquences. On croit des fois qu'on peut désobéir à Dieu, bon, c'est pas grave, voilà, il m'aime, il sait très bien que, voilà, telle situation. Mais tous mes actes ont une conséquence. Pas forcément sur moi aujourd'hui, mais peut-être sur mes enfants ou peut-être sur mon entourage. Hein. Dieu voit ce que je fais dans mon cœur, ce que je cache, tout est devant lui. Et tout ce que Salomon faisait était devant Dieu. Et Dieu, à un moment, était patient, calme, tranquille, mais à un moment, il punit aussi. Je ne dis pas que Dieu va nous punir comme ça, de toute façon on ne va pas faire un schisme dans notre vie, ça c'est pas possible. Mais Dieu nous voit aussi agir et il voit si à un moment, ben, quelque chose d'autre prend le pas sur Dieu. Qui est ma priorité dans ma vie? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est autre chose? Les loisirs, le travail, ma femme, je ne sais pas, il y a un tas de choses qui peuvent prendre la place de Dieu. Dieu voit cela. Et on sait très bien ensuite que Israël et Juda vont se déchirer et vont se taper sur la tête pendant des siècles. Et des siècles, à cause d'un homme et à cause de son péché. Il y a des conséquences graves des fois à notre péché. C'est terrible. Alors vous allez dire, vous n'êtes pas des rois, oui, certes, mais si vous péchez, ne croyez pas que ça n'a pas de conséquences. Si vous devenez alcoolique, même en tant que chrétien, il ne faut pas voir que ça peut exister. Ça peut avoir des conséquences sur votre famille aussi, etc., etc. À nous de nous recentrer peut-être, de nous arrêter, de nous dire, mais où est-ce que j'en suis vraiment avec Dieu? Est-ce que Dieu est ma priorité ou bon, il est lointain, là, quelque part, dans ma vie chrétienne? Salomon me dit, fais attention à cela. Mets Dieu en premier dans ta vie. Ni la grande sagesse de Salomon, ni l'argent, ni tout ce que la gloire qu'il avait, ne l'ont préservé de la chute. Et moi, je n'ai pas encore cette grande sagesse. Bon, l'argent, je pense que ce n'est pas très important. Mais nous qui sommes des petits sages, on pourrait dire, on devait encore plus se méfier et être prudent de ne pas nous laisser emporter par la chute. Dieu doit être le premier dans ma vie. Lui en premier. Et c'est tout. Et le reste se fera tranquillement. Troisième chose qu'il nous apprend, c'est comment faire de Dieu notre priorité. J'aurai 15 ou 20 dimanches pour vous dire exactement dans le détail, mais je vais essayer de résumer, hein, parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Mais la première chose, c'est d'être conscient de ce que Dieu nous donne. Vous savez que vous, en tant que chrétien, vous êtes gâtés comme des rois. Allez, moi, je n'ai pas une cour, moi, je n'ai pas de l'argent, je n'ai pas des trésors. On est gâtés comme des rois, à condition, évidemment, d'y faire attention. Vous êtes riche du salut. Quand même pas rien. Hein. À combien vous estimez le salut s'il fallait le payer en euros? C'est-à-dire, on va dire, à un euro le péché commis autrefois. Personne ne pourrait le payer. Parce qu'en plus, il y aurait tout ce qu'on n'a pas su. Hein. Donc, vous êtes riche, quand même. Vous n'avez pas eu payé cette dette, quand même. C'est pas rien. Hein. Quelqu'un écrivait en parlant du salut acquis, « Christ nous a sauvés. La bénédiction du salut ne se limite pas à notre lit de mort et au séjour céleste, mais la vie éternelle se reçoit et se vit dès à présent. Le croyant n'espère pas être un jour sauvé, il l'est déjà. » Et c'est ça qu'on oublie souvent. « Chacun de nous, en ce moment présent, en tout cas si on est sauvé, soit sauvé, et soit sauvé, soit perdu. Dieu a sauvé ses élus, non partiellement, mais de façon parfaite, c'est-à-dire selon son dessein, il les a destinés à la vie éternelle. » Et son dessein est irrévocable. Et ça, c'est toute ma richesse. Je suis un roi. Alors, pas comme Salomon, évidemment, mais quelque part, au fond de moi, je suis riche parce que le don de la grâce, c'est un cadeau précieux qu'on ne peut pas imaginer. Mais il faut s'en souvenir. On se sent bien pauvre en tant que chrétien, mais dites-vous quand même, Waouh! Et en plus, je suis co-héritier de Christ. Christ, il va hériter de quoi? Tout. Et moi, je suis attaché à cet héritage-là. Et vous vous dites pauvre? On est riche. Allez voir votre maison pour l'avenir, là, dans Apocalypse 20, 21, 22. C'est beau, hein? C'est pas notre petite demeure qu'on a aujourd'hui. C'est un faste. Et tout ça, c'est pour moi plus tard. Donc je suis riche en Christ. Je suis aussi riche de dons que Dieu m'a donnés. Il m'a donné une vie pour le servir, pour le mettre en priorité. Pas pour se servir. C'est ce que nous faisons bien souvent. Mais il veut qu'on le serve. Et me donne des dons. Et je suis riche de certaines choses que je ne savais peut-être pas faire autrefois ou que Dieu va m'aider à faire aujourd'hui en tant que chrétien. Ça, c'est aussi une forme de richesse. Je peux être riche de sagesse. On peut être comme Salomon. Jacques, chapitre 1, verset 5, dit que si vous n'avez pas de sagesse, qu'est-ce qu'il faut faire? Pleurer, se lamenter sur soi. Qu'on demande. Comment demander? Avec foi, il est dit. Sinon, on est insensé. C'est-à-dire que quand je demande à Dieu de la sagesse, tout comme Salomon l'a demandé, il a cru que Dieu lui la donnerait. Mais il faut le croire aussi. Donc on peut être des Salomons dans notre vie. Ah! On n'est plus jaloux de Salomon d'un seul coup, hein? Je peux être sage et je peux demander à Dieu cette sagesse, mais évidemment, il faut que je vive humblement et que je la demande humblement et avec beaucoup de foi. Quelqu'un écrivait en parlant de la sagesse, hein, « La sagesse est pour le 9/10 le fait d'être sage au bon moment », disait Theodore Roosevelt, hein, vous connaissez. « Beaucoup d'entre nous sont trop souvent sages après l'événement. » Souvent, on agit, on voit quand c'est planté et on demande à Dieu de la sagesse. Mais c'est avant qu'il faut demander. Et le Seigneur se plaît à nous accorder de la sagesse. Alors pourquoi on ne lui demande pas, hein? On se met à genoux. Seigneur, voilà, je suis dans des situations difficiles. Je suis humble devant toi. Je ne suis pas capable de trancher. Donne-moi de la sagesse et vous verrez que Dieu va agir d'une manière ou d'une autre. Lisez la Bible, hein, parce que ça aide aussi pas mal pour cela. Donc le chrétien est riche, gâté comme un roi. Et qu'est-ce qu'il fait avec ses trésors célestes, hein? Parce que, comme Salomon, Dieu lui avait confié des richesses. La sagesse, mais aussi des richesses. Qu'est-ce qu'il en a fait? Bah, il a développé pour sa propre gloriole. Mais Dieu m'accorde aussi certaines richesses. Et qu'est-ce que j'en fais avec aujourd'hui? Si Dieu n'est pas à la première place, je vais prendre ces richesses que Dieu me donne et je vais les exploiter pour moi, tout simplement. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Lui, il voudrait qu'on investisse pour lui. C'est vital dans notre vie et dans nos actions. Investir pour son royaume. Être aussi riche devrait nous rendre heureux. Alors, je ne sais pas si vous saviez que vous étiez tellement riche. Je sais que quand on regarde le compte en banque, banquier, il ne dit pas la même chose, hein, on est d'accord. Mais au fond de notre cœur, on est tellement riche spirituellement, et parce que je suis riche spirituellement, je devrais être heureux, satisfait de ce que j'ai. Est-ce que vous êtes satisfait de votre vie? C'est pas des oui, comme j'entends d'habitude. Hein. Ah ouais, c'est un examen qu'on doit faire dans notre cœur. Est-ce que je suis satisfait de... On ne peut pas être parfaitement satisfait. Parce que déjà, il faut qu'on grandisse et qu'on connaisse mieux le Seigneur. Mais quand même, je suis sauvé. J'ai quelqu'un qui veille sur moi tous les jours, qui prend soin de moi. Il y a des hauts et des bas, mais il sait pourquoi il le fait aussi. Parce que c'est pour mon éducation, pour ma sanctification. Je suis heureux d'être enfant de Dieu. Et je suis aussi plein de reconnaissance. Parce que puisque je suis heureux d'avoir tout ça, eh bien, j'ai envie de dire merci au Seigneur pour toutes ces choses-là. Je pense que Salomon l'a fait peut-être au début, mais à la fin, il disait merci à Moloch. Mais merci à des morceaux de bois, là. C'est triste quand même qu'on y réfléchit. Et puis une deuxième chose pour faire de Dieu notre priorité, c'est prendre une fois pour toutes Dieu au sérieux. On connaît Dieu, on sait qu'il y a l'Église, on sait qu'il y a la Bible. Est-ce qu'on le prend vraiment au sérieux? Il y avait une promesse conditionnelle pour Salomon, hein, si tu obéis à mes commandements, etc., je te bénirai. Il ne l'a pas fait et Dieu justement a puni. Dieu a promis cela à Salomon, à condition qu'il n'obéisse et qu'il le suive. Et je pense que Dieu voudrait aussi des fois me bénir, mais moi, je ne le veux pas dans ma vie. Je l'exclus de ma vie. Alors, je ne dis pas qu'il va bénir dans le sens que vous allez avoir des voitures, ce n'est pas ça la bénédiction pour moi. Hein. Mais des fois, cette bénédiction qu'il veut faire en moi, ben, je la refuse tout simplement. Parce que je ne lui obéis pas, parce qu'il n'est pas ma priorité. Et parfois même, ben, je ne prends pas garde à ses avertissements. La Bible me dit que le diable rôde, Dieu m'avertit. Je suis assez fort spirituellement, moi. Moi, j'arrive à lutter tout seul, pas besoin de Dieu. Et puis la chair qui est là, la Bible nous le dit aussi, que la chair est faible. Hein. On est prêt à faire un tas de choses, mais la chair, elle est faible. Et ça, c'est des avertissements que Dieu nous donne pour nous protéger de nous-mêmes, tout simplement. Mais si je n'obéis pas au Seigneur, le Seigneur nous laisse faire. Si vous voulez désobéir, allez-y. C'est vous qui allez récolter, hein, tout simplement. Prendre Dieu au sérieux, c'est aussi être réellement vigilant. Hein. Les pièges que Salomon a connus, le sexe, l'argent, la gloire, ne croyez pas que vous n'allez pas y passer aussi. On est sensible à toutes ces choses-là, peut-être pas autant que lui, mais le sexe, ça c'est quelque chose de très dangereux. Même chez les chrétiens, il ne faut pas croire. L'argent, ça peut devenir le dieu du chrétien aussi des fois. On a besoin de plus de plus. La gloire peut-être moins, mais il y a des gens qui aiment bien la gloire dans l'Église. Hein. J'aime bien être le premier. Regardez-moi comme je suis grand. Il y a des pièges aussi comme ça pour le chrétien. Sois content de nos richesses, non seulement spirituelles, mais peut-être ce que Dieu nous accorde aussi dans le travail, de ce que nous possédons. Ne convoitons pas, ne faisons pas comme le Salomon, à vouloir toujours plus, plus, parce qu'à un moment, on va tomber dans le piège. Et Dieu permet le piège exprès pour qu'on réalise qu'on fait mal. Prendre Dieu au sérieux, c'est être humble et le rester. 1 Corinthiens 10, 12 dit que celui qui croit debout prenne garde de tomber. Qu'est-ce que je suis fort spirituellement, moi ? Je lis ma Bible tous les jours, je vais à l'église régulièrement, regarde-moi ces petits chrétiens, regarde-moi comme je suis un grand chrétien. Que celui qui marche prenne garde de ne pas tomber. Et pour ne pas tomber, vaut mieux rester en bas. Comme ça, vous pouvez tomber, pas tomber plus bas. Hein. C'est-à-dire rester humble, tout simplement. Rester humble devant Dieu, se souvenir de qui nous sommes, ne pas être prétentieux dans notre vie chrétienne et être vigilant, tout simplement. Être humble, c'est ne pas se laisser aussi attirer par ce qui est élevé, nous dit Romains 12, 16, les grandes choses. Hein. On aime bien être devant pour certains. Il y en a qui aiment bien être derrière parce qu'ils sont timides, mais il y en a qui aiment bien être devant. Être devant, ce n'est pas mieux que d'être derrière parce qu'on est timide. Hein. Dieu n'excuse pas non plus ça. Il m'a confié des choses et je ne vais pas lui dire tous les jours « je suis timide hein, » ou « je ne peux pas, je ne suis pas capable », etc. Il m'a donné un don. Mais laissons-nous attirer par ce qui est humble. Et si Dieu veut nous élever, c'est lui qui le fera en son temps et comme il voudra. Le chrétien est comme Salomon, il connaît l'orgueil et peut-être des fois trop d'assurance. Et à cause de cela, bien souvent, des chrétiens disent « Ah, mais pourquoi j'ai chuté ? Pourquoi je suis aussi loin de Dieu ?» Ben, tout simplement parce que Dieu n'était pas ma priorité. Ou du moins, j'ai cru qu'il l'était et à un moment, ben, j'ai laissé tomber. Et puis la Bible nous dit aussi qu'on a des armes de Dieu. Dans Éphésiens 6, 14, vous connaissez hein, les armes de Dieu. Il s'agit de tenir ferme avec les armes que Dieu nous a données, la justice, le zèle, la foi, la parole, etc. Vous savez, quand on part à la guerre, si je ne prends pas les armes, qu'est-ce qui arrive ? Je suis mort. Ben oui, hein, vous êtes en face de l'ennemi, lui, il vous tire dessus. Hein. Il ne va pas vous demander d'aller chercher vos armes, il vous tire dessus. Si on part dans notre vie sans nos armes, en tant que chrétien, eh ben, le diable va jeter ses traits enflammés et ben, parfois on chutera. À nous de saisir ces armes-là. Puis veillez et priez, nous dit aussi Jésus-Christ. Hein. On se souvient dans le jardin de Gethsémané, il avait demandé aux disciples de prier avec lui pendant que lui luttait. Qu'est-ce qu'ont fait les disciples ? Petite sieste, hein. Bon la sieste, c'est agréable la sieste. Et bien souvent, ben, on préfère la sieste que veiller et prier. Mais on a vu aussi ce que ça va donner à ses disciples après, parce qu'ils n'ont pas veillé et prié. Face à l'épreuve, pouf, ils ont tous fui. Quel courageux, alors qu'ils frimaient tout à l'heure. Mais Dieu veut qu'on veille et prie pour qu'on conserve cette relation avec lui. Si j'ai cette relation avec Dieu au quotidien, et ben Dieu est premier dans ma vie, tout simplement. Ce n'est pas compliqué, finalement, hein, de garder Dieu en première place. Lire la Bible aussi, dans 1 Corinthiens 10, 11, il est dit « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » La Bible est là pour nous servir d'exemple. Moi, je suis content de voir que Dieu est honnête avec nous, parce qu'il aurait pu mettre que les bons rois, les bonnes personnes, ceux qui ont toujours obéi à Dieu. Il a laissé aussi les mauvais exemples. Il y en a beaucoup plus, je crois, d'ailleurs, dans la Bible. Mais parce qu'à un moment, nous, on va pouvoir lire l'histoire de Salomon, voir le mauvais exemple qu'il a fait, a mis en place dans sa vie, et ne pas reproduire, tout simplement. Et on va voir les pièges, hein, on connaît les pièges qu'il n'a pas évité, justement, et pour moi, ça va me servir d'exemple dans ma vie. Mais si je ne lis pas la Bible, je ne peux pas savoir, tout simplement. Obéir aussi à la parole de Dieu. Je sais la parole, Salomon connaissait la parole, mais n'a pas obéi, tout simplement. On peut connaître toute la Bible par cœur, la réciter. Je sais qu'il y en a qui peuvent la réciter par cœur. C'est pas pour ça qu'ils obéissent à la parole de Dieu. Alors le peu que l'on sait déjà, c'est bien d'y obéir, mais Dieu voudrait être connu pleinement, comme dans un mariage. On ne veut pas connaître son conjoint qu'à moitié, on veut le connaître pleinement. Dieu veut être connu pleinement aussi dans notre vie, mais lui nous connaît pleinement, mais moi je ne le connais pas pleinement. C'est à moi d'aller chercher à le connaître davantage et faire de lui justement ma priorité. Faire de Dieu ma priorité, c'est chasser tout ce qui va nuire à ma relation avec Dieu. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas pouvoir travailler, ça ne veut pas dire que je ne vais pas pouvoir avoir des loisirs, ça ne veut pas dire que je ne peux pas aimer mon conjoint. Ça, ce n'est pas vrai. mais je veux que Dieu soit prioritaire dans tous les domaines de ma vie. Et vous allez voir que la vie change quand on le fait réellement. Salomon ne l'a pas fait, vous avez eu le résultat. Mais si on le fait, eh ben ça change vraiment notre relation avec Dieu et peut-être même avec les autres. C'est que bénéfique pour nous. Comme pour Salomon, Dieu nous donne tout pour être victorieux. À partir du moment où je suis né de nouveau, je suis riche comme Salomon dans tous les domaines, spirituels, on pourrait dire même physique quelque part. Mais la question maintenant, c'est que j'ai eu tout ça, qu'est-ce que j'en fais? Ça, c'est Dieu et moi, Dieu est dans votre cœur et vous savez très bien où vous en êtes avec lui. Mettez Christ en priorité, c'est ce qu'il désirerait. Pour terminer, beaucoup de chrétiens font naufrage après une marche fidèle. Je connais des chrétiens qui ont marché fidèlement pendant des années, et d'un coup, paf, tombe d'un seul coup. On ne sait pas pourquoi des fois ça arrive. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas parce qu'ils avaient Dieu en priorité dans leur vie. Ça, j'en suis convaincu. Mais que doucement, les choses de la vie ont remplacé Dieu. Et on pense être chrétien parce qu'on retourne à l'église régulièrement, parce qu'on fait des activités dans l'église, mais à un moment, boum, voilà, dépression spirituelle. Dieu a été certainement remplacé par quelque chose d'autre. Et ça nous guette tous. Le diable, chaque jour, fait que vous oubliez Dieu. Moi aussi, il ne faut pas croire. Tous les jours, il fera tout pour vous oublier Dieu. C'est son boulot, c'est son job, il est payé pour ça. Enfin, peut-être qu'il est payé. À moi maintenant d'être vigilant, d'en avoir conscience et de marcher fidèlement avec le Seigneur. Jésus doit être ma seule priorité de vie, c'est absolument vital. Ce n'est pas juste un dimanche, on dit « Ah, Dieu doit être le premier dans votre vie », vous allez dire « Ah oui, c'est vrai, Dieu doit être le premier dans ma vie ». Mais c'est vital, absolument vital. Vous voyez l'exemple de Salomon. C'est absolument vital pour ma vie au quotidien, c'est urgent même. Et puis comme on l'a dit, c'est tellement bénéfique pour nous-mêmes, tellement bénéfique. Mais c'est moi qui dois faire l'effort. Dieu ne s'impose pas en nous. Ce serait plus simple. Ah, on serait des top chrétiens là. Si Dieu faisait vraiment tout comme il voulait dans notre vie, waouh, on serait peut-être lobotomisés. Quelque part, je crois. Mais voilà, Dieu est là, il attend tout simplement qu'on le mette en premier. Réjouissons-nous aussi des richesses que nous avons spirituelles. Il faut de temps en temps aller voir le coffre-fort que nous avons dans notre cœur et d'aller un peu compter tous les sous que nous avons, entre guillemets. C'est une métaphore, évidemment. La grâce, l'avenir, l'espérance que Dieu nous donne. Waouh, vous refermez le coffre et vous dites quelle chance quand même, par rapport à ce que j'aurais vécu si je ne connaissais pas Dieu, l'enfer, l'éloignement, etc. C'est quand même mieux, non? Non? Mmh. C'est timide, là, quand même. Mais richesse spirituelle, mais physique aussi, parce que Dieu prend soin de nous au quotidien. On l'a dit, là, c'est sa manière de faire des fois, mais c'est aussi ce qu'il fait dans notre cœur en même temps. Dieu travaille dans tous les domaines de notre vie. Et on doit vivre en reconnaissant, justement, de ce que Dieu fait pour nous. Si Dieu est ma priorité, alors grâce à lui, je vais rester fidèle jusqu'au bout. Et j'insiste sur le « grâce à lui ». Lui attend que je le mette en priorité dans ma vie pour qu'il puisse me prendre et me faire avancer avec lui. Ce n'est pas grâce à moi que je vais rester fidèle jusqu'au bout, c'est grâce à lui. Mais il faut d'abord que je le mette en priorité dans ma vie. Alors qu'est-ce que je vais faire comme choix chaque jour? Demain matin, même aujourd'hui déjà, Dieu tend sa main. D'accord? Tous les jours, il vous tend sa main. La question, c'est de savoir si vous voulez tout simplement la saisir. Faites-le, ne faites pas comme Salomon, il est là pour nous servir d'exemple. Saisissez tout simplement la main de Jésus-Christ et mettez-le en premier dans votre vie. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui nous relate cette histoire de Salomon, homme sage, riche et connu dans le monde entier, et qui, malgré tout cela, malgré une vie qui commençait si bien, va finir vraiment de façon minable. Et tristement, Seigneur, et merci que tu nous aies laissé sa vie pour que nous puissions nous aussi réfléchir à notre vie chrétienne qui commence souvent bien, tout feu, tout flamme pour toi, Seigneur, et qui, avec le temps, commence à se refroidir et jusqu'à parfois même une chute terrible où nous avons complètement oublié qui tu étais, Seigneur. Je sais que la vie chrétienne n'est pas toujours simple, mais tu te plais à nous donner aussi toutes les armes, tous les moyens nécessaires pour te mettre en premier dans notre vie. Ça dépend de moi, Seigneur. Ça dépend tout simplement de cette main que je vais te tendre. Aide-nous, Seigneur, à l'attendre chaque jour pour que tu puisses être le premier dans mes choix, le premier dans mes projets, le premier dans ma famille, le premier dans mon travail, le premier dans ma vie spirituelle. Et Seigneur, montre-nous aussi combien cela est bénéfique pour nous. Je priais pour ce monde aussi qui ne te connaît même pas et fais de nous ces ambassadeurs, comme on l'a dit, de ta réconciliation pour qu'eux aussi puissent te connaître. et couvrir les joies de marcher avec toi, la paix aussi que tu accordes à celui qui place sa confiance en toi. Merci Seigneur pour ce que tu feras et fais de nous tes témoins. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.